10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Et oui, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique avec Catherine Ney, réalisée par Jean-Luc Arblade, préparée par Capucine Patouillet. Et nous sommes aujourd'hui avec Caroline Forest, journaliste à Marianne, auteure, réalisatrice du film Sœur d'armes. Et nous sommes aussi, dans le fond, il y a un an, si j'en crois mes écrans, parce que chaîne d'info numéro 1, gilet jaune, chaîne d'info numéro 2, gilet jaune, chaîne d'info numéro 3, gilet jaune, chaîne d'info numéro 4, gilet jaune. Mais comme il ne se passe rien encore, et que nous ne sommes pas un journal en direct, on ne va pas parler des gilets jaunes. C'est la première bonne nouvelle pour cette émission. Maintenant, on va parler néanmoins de sujets qui saturent quelque peu l'espace public, parce qu'on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est Canteloup qui nous y invite.
Allez, on va parler de ces 11 djihadistes renvoyés par la Turquie qui vont arriver en France. Des djihadistes parmi lesquels on rappelle qu'il y a la marieuse de Daesh. Marine Le Pen, bonjour.
Oui, bonjour madame. Bonjour jolie métisse. Oh, il est mignon, on dirait un gros bourdon.
Ouais, plus que l'abeille, ouais.
Non mais franchement, voilà le résultat, disons-le, de la politique islamophile de M. Macron qui porte enfin ses fruits. Les djihadistes, ouvrons les yeux, arrivent en France par centaines.
Mais non, 11. C'est 11.
Oui, oui, bon écoutez, par onzaine, si vous voulez. Oui, je suis quasiment du pareil au même.
Bon, écoutez, on n'a pas trop le choix non plus. Hein. Le président Erdogan renvoie les membres de l'État islamique dans leur pays d'origine, et il se trouve que ces 11 djihadistes sont français.
Ah ben alors, dites-le alors que c'est chouette. Hein, c'est ça, c'est formidable, c'est le retour. Donc, d'après ce que vous dites, des enfants prodiges, c'est ça, ils ont joué ces djihadistes dans les plus grands clubs du monde, et ils rentrent au pays, ces petits Français. Hein, ils ont pris leur billet d'avion, je suppose, sur martyrpascher.com. Oh. Allez, on va accueillir ces GM, ces gentils martyrs, n'est-ce pas, à l'aéroport avec des colliers de fleurs, hein, c'est ça.
Et puis ah là là.
Quoi Allah dire la dada, c'est ça.
C'était Nicolas Canteloup imitant Marine Le Pen sur Europe 1 mercredi. Alors, retour des djihadistes. Autorisé ou pas autorisé le port du foulard qu'on appelle voile dans les accompagnements scolaires, liste communautaire ou pas aux élections et comment contrôler, manifestation dimanche dernier contre l'ainsi nommé islamophobie. On est complètement envahi par ce débat, par ce sujet, par tout ce qui de près ou de loin pourrait avoir un rapport avec l'islam, à tel point d'ailleurs que dans toutes les enquêtes d'opinion, du coup, les Français sont de plus en plus hostiles et pensent de plus en plus que l'islam est par principe incompatible avec la République. Est-ce que vous ne trouvez pas, vous qui en êtes pourtant à beaucoup d'égards spécialistes, qu'on en fait trop, Caroline Forest ?
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Catherine. Bonjour. Écoutez, moi je suis partie 3 ans faire un film de cinéma qui certes parlait de ces sujets, mais qui en parlait autrement. Parce que j'étais moi-même saturée par la façon dont on en parlait. Et donc revenir dans le débat et retrouver les mêmes rengaines et parfois des débats qui tournent en rond aussi, c'est douloureux, c'est douloureux. Et pourtant, il va falloir bien en sortir. Et comme à chaque fois, j'ai l'impression en plus que chaque fois qu'on fait un tour de piste, on perd une nuance. Donc c'est ça qui commence à être très angoissant. Et il va falloir sortir du cercle et tracer une ligne droite et commencer à poser les étapes les unes après les autres. Mais maintenant, il faut quand même dire qu'on n'est pas aidé, parce que c'est pas qu'une volonté. Et ça, je refuserai toujours les professionnels de la victimisation qui veulent convaincre nos compatriotes musulmans que si on a tous ces débats, c'est uniquement par obsession anti-musulmane et anti-islam. On a malheureusement tous ces débats parce que nous avons été frappés. J'ai redécouvert le chiffre récemment. On est un nombre d'attentats encaissés ces dernières années, spécialement en France, inouï. Et parce que cette guerre, c'est une vraie guerre, n'est pas terminée. La preuve en est qu'on a encore la question des revenants djihadistes. Malheureusement, c'est ça qui fait que nos débats continuent et tournent en rond. Tant qu'on n'aura pas regardé ça en face et qu'on n'aura pas sorti la tête de ça, on sera obligé de tenir bon pour que ça ne parte pas dans tous les sens.
Catherine Ney ?
Mais oui, parce qu'on parle de l'islamophobie. Ça veut dire quoi, phobie ? Eh bien, c'est une aversion instinctive. Une peur, une crainte excessive peut-être, mais irraisonnée. Est-ce qu'elle est irraisonnée ? Écoutez, en tous les cas, la France, comme vous venez de le dire, est le pays qui a été le plus touché par les attentats islamistes depuis 15 ans. Et rien que depuis 2012, 263 personnes ont été tuées par des terroristes au nom d'Allah. Alors, les Français, ils ont peur de l'islam, parce que quand on leur dit c'est une religion de paix, mais c'est la seule religion qui tue des Français au nom de, justement d'une religion qui est soi-disant pour la paix.
Dans la période
donc,
récente.
Donc, tant qu'il y aura des attentats, tant que ça va continuer, qu'on ait la crainte des attentats, mais je pense que l'islam fera peur et que toute femme voilée, il y aura une suspicion qu'elle soutient ces attentats, même si c'est faux. Et je veux dire, et on est dans une sorte d'engrenage qui ne
mais
peut
quand vous dites même si c'est faux, peut-être que la tâche quand même des gens qui ont une parole publique, c'est de ne pas encourager cette fausseté, cette erreur. C'est de ne pas
c'est là qu'on est devant, c'est là qu'on est devant une tâche sans fin. Écoutez-moi, ça fait plus de 20 ans que j'essaie de maintenir ces nuances. Et de tenir une position.
Plus de 20 ans, n'exagérez pas, vous êtes quand même
assez
Olivier, jeune.
Je suis désolée
vous avez
de vous
commencé
dire.
À 5 ans.
Non.
D'accord.
J'avais plus de 20 ans quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, et j'ai maintenant un peu plus que 40. Et j'ai 100 fois, et j'ai même l'impression de tellement de me répéter, je ne sais plus quoi faire, 100 fois essayer de maintenir ces précisions, et à chaque fois je sens que la pression est plus forte. Par exemple, les deux positions récentes que j'ai depuis des années, à savoir... éviter l'utilisation du mot islamophobie. Ça a l'air comme
mais,
ça d'être obsédé par le vocabulaire. Racisme anti-musulman. Je sais, c'est plus long.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais...
Et le problème, c'est qu'on est dans une époque où le plus long, même s'il est plus précis, perd toujours. Musulmanophobie même, si vous voulez, parce que la phobie envers les musulmans, c'est très clair. Ça désigne le racisme envers les musulmans. Le racisme envers les musulmans devrait nous mettre absolument tous d'accord. Et depuis particulièrement l'attentat de Bayonne, j'aurais souhaité, moi, une vraie manifestation contre le racisme anti-musulman. Je pense qu'il faut ces mobilisations. Je pense que nous allons vers des attentats de plus en plus. Et islamistes et racistes, ils vont s'alterner. Aux États-Unis, ils sont même à l'opposé. Il y a plus d'attentats racistes que d'attentats islamistes. Donc, réellement, j'aurais souhaité cette mobilisation. Le problème, c'est que se mobiliser contre l'islamophobie, dont on sait que c'est un mot qui est utilisé depuis des années par les fondamentalistes pour faire taire la critique de l'intégrisme, pour intimider... et désignés comme bouc émissaire les laïcs, les féministes, pour même inciter à la haine et à la mort contre Charlie Hebdo. C'est marcher sur les morts de certains attentats sous prétexte d'en prévenir d'autres. Donc c'est absolument contre-performant. Et quand on le fait en plus dans une manifestation qui est organisée par des islamistes, où M. Marwan Mohamed, qui est un des professionnels de cette confusion, de ce cercle infernal et de ce poison, lance des Allahu Akbar en expliquant que c'est la presse qui a défiguré cette phrase. Pardon, là on est dans ceux qui veulent tuer les nuances. Ce n'est pas la presse qui a fait d'Allahu Akbar un cri inquiétant, c'est les djihadistes.
Alors, un des débats qui a pris un cours nouveau cette semaine avec des propositions de loi, c'est celui qui concerne les élections municipales et le droit ou non à telle ou telle liste de se présenter. On y vient dans quelques instants.
Caroline Fourest, journaliste à Marianne, auteure et réalisatrice du film Sœur d'armes, sorti le 9 octobre dernier, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Mediapolis, jusqu'à 11h.
Alors, nous sommes dans une époque où la passion d'interdire monte à vitesse grand V. Donc, il faut interdire Alain Finkielkraut d'antenne parce qu'il a fait une très 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 mauvaise plaisanterie au second degré et que... donc on doit l'interdire d'antenne, il faut interdire de cinéma telle et telle personne, etc., etc. Vous entendez ça tous les jours. Et dans la sphère politique, il y a quand même un cran qui a été franchi, cette semaine. Écoutez.
Je pense que les promoteurs de l'islam politique vont chercher maintenant à infiltrer des listes. Et ce que nous proposons avec Bruno Retailleau, c'est qu'il y ait une charte signée par les partis politiques dans notre pays, s'engageant à ce qu'il n'y ait pas non plus sur leur liste à eux des candidats qui ont un profil communautariste, c'est-à-dire qui disent qu'il faudra des horaires pour des associations à la piscine, mais derrière ça, ce sont des horaires différenciés hommes-femmes, et ça, c'est impensable. Ceux qui nous disent qu'il faudra regarder la question des repas dans les cantines, ça aussi, c'est impensable.
C'était Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 mercredi. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, Catherine Ney et Caroline Fourest. Je vais, moi, vous exposer un point de vue assez tranché.
Nous vous écoutons, mon cher Olivier.
C'est très gentil à vous, ma chère Catherine. Moi, je pense que, quel que soit l'avis qu'on a sur les horaires de piscine différenciés, moi, je suis contre, mais quel que soit l'avis qu'on a, quel que soit l'avis qu'on a sur les menus dans les cantines, etc., etc., si on... quel que soit... les opinions qu'on a sur une conception traditionnaliste de l'islam, etc. On ne peut pas interdire des candidatures, des mouvements politiques, des partis pour ce qu'ils pensent. Quand c'est une conception philosophique, religieuse, etc. On ne l'a jamais fait, en tout cas on ne l'a jamais fait sous la Ve République, on ne l'a jamais fait d'ailleurs sous la IVe République, et on ne peut pas le faire. Et je suis absolument stupéfait de voir que des personnalités qui se réclament du libéralisme politique, qui se réclament du pluralisme, comme Xavier Bertrand, comme Bruno Retailleau, font des propositions. La proposition de Bruno Retailleau, c'est d'interdire tout élément direct ou indirect relevant de discours contraires au principe de la souveraineté nationale. Vous vous rendez compte, une définition comme ça, et puis ces exemples, c'est le fondamentalisme islamique. Le fondamentalisme islamique, pas le terrorisme, pas l'appel au terrorisme, le fondamentalisme. Et bah, avec des formules comme ça, mais d'abord on aurait interdit le Parti communiste jusqu'à ce qu'il renonce à la dictature du prolétariat, c'est-à-dire toutes les premières années de la Ve République, c'était une atteinte au principe de la souveraineté nationale. On pourrait interdire un parti démocrate chrétien qui veut interdire l'avortement, parce que c'est mettre la loi religieuse au-dessus des autres.
On pourrait certainement, pas sur la souveraineté nationale, mais sur le principe de porter atteinte, par exemple, à certaines valeurs fondamentales de la République, on pourrait certainement interdire le Rassemblement national par moment.
Bon, donc ce sont des propositions liberticides.
Oui.
Voilà mon point de vue radical, si je puis dire. C'est un point de vue de pluralisme radical.
Oui,
c'est
moi je l'entends et je ne suis pas loin de
partager. C'est-à-dire pluralisme élémentaire.
Olivier. Après, vous voyez, il y a une nuance entre ce qu'on vient d'entendre de Xavier Bertrand et la proposition de M. Retailleau, même si je sais qu'ils le font ensemble. Proposition de loi qui dit on va interdire, alors au nom de principes qui sont extrêmement larges, de critères extrêmement larges, ces candidatures, c'est clairement liberticide. Quand Xavier Bertrand propose de soumettre une charte engageant les partis politiques à être vigilants dans le fait de ne pas recruter des candidats qui tiennent des propos ou qui ont des postures communautaristes, je trouve ça déjà légèrement plus intéressant et légèrement plus constructif.
Oui, vous avez raison, mais juste qu'on soit très précis, puisque vous aimez la rigueur, vous pensez qu'on ne doit pas accepter, enfin les partis doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de candidats aux municipales qui souhaitent, par exemple, des repas différenciés dans les cantines.
Alors moi, j'ai un souci avec le mot communautarisme parce que c'est un mot qui est beaucoup trop instrumentalisé et trop imprécis, justement. Il a été utilisé par des groupes d'extrême droite qui refusaient, et pas seulement de droite aussi, qui refusaient l'égalité des droits à des minorités qui se battaient pour. Et parfois, il n'est jamais revendiqué d'ailleurs, mais parfois il est nié, ce communautarisme, quand il existe vraiment, ce danger communautariste, c'est-à-dire quand des groupes essaient réellement de faire reculer certaines valeurs fondamentales de la République, comme l'égalité homme-femme. Je pense sincèrement que l'infiltration des partis politiques par des militants de l'islam politique radical est un vrai sujet. Ça fait là aussi quelques années que je travaille, et que je travaille du côté de ceux qui pensent cette stratégie d'infiltration. Donc je sais ce qu'ils ont en tête et je sais les points qu'ils ont marqués dans de très nombreux partis, pas simplement de gauche, beaucoup à gauche, mais aussi à droite. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un débat de vigilance, notamment des élus locaux, au niveau effectivement des municipalités, à savoir, est-ce que vraiment on peut pratiquer cette vigilance vis-à-vis de groupes et de candidats qui ont des positions anti-républicaines, anti-égalitaires? Je pense qu'effectivement, tenir des propos, des positions qui sont anti-égalitaires et anti-républicaines, c'est un vrai sujet. Je n'irai évidemment pas défendre le principe de l'interdiction. Une démocratie qui va bien, mais elle est très attaquée, honnêtement. Mais une démocratie qui va bien, elle génère ses anticorps par le débat, par la vigilance.
Bon, mais je crois que là, tout a été dit. Et puis, je pense que s'il y a des listes communautaires, je voudrais savoir quel nombre, combien il y en aura, parce que jusqu'ici, il y en a eu très très peu. Est-ce qu'il va y en avoir une recrudescence pour les élections municipales? Et est-ce que, si on demande une interdiction, est-ce que le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme autorisera?
Non, ça ne tiendra jamais. Puis voyez, Catherine, on passe de communautariste à communautaire. Le communautaire n'est pas en soi un problème, même en République. Oui. On a le droit de se rassembler par le biais d'une identité commune quand il s'agit d'avoir pour objectif de se battre contre les discriminations, pour l'égalité, qui sont nos valeurs communes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui se rassemblent par identité commune pour viser une société différenciée et séparatiste et ségrégationniste.
Oui, mais en même temps, où commence ségrégation inacceptable
Totalement,
et comment
c'est un
est-ce qu'on la distingue de... Ouais. L'acceptation de pratiques culturelles, religieuses différentes. Vraie question. Tiens, vraie question qu'on va reprendre dans quelques instants. Catherine.
D'accord.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ils reçoivent tous les deux aujourd'hui la réalisatrice, auteure et journaliste à Marianne, Caroline Forest.
Et Caroline Forest, je voulais vous faire descendre des principes aux problèmes très très concrets. Est-ce que c'est acceptable pour respecter des cultures, des religions différentes, que dans des cantines scolaires, on mette un plat sans porc, ou est-ce que c'est inacceptable ?
Mais on a eu tous ces débats 100 fois. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Génie et la laïcité », où j'ai essayé de faire des propositions constructives sur tous ces terrains, où je m'étais déjà opposée à l'interdiction, par exemple, des sorties scolaires pour les mères voilées, parce que je pense qu'il ne faut pas étendre cet interdit jusque-là du tout. Et je pense aussi que pour les menus dans les cantines, il suffit d'offrir le choix entre un menu végétarien et voilà, un menu avec viande ou poisson, et que du coup, tout le monde, les catholiques, les musulmans pratiquants, s'y retrouvent sans assigner. C'est très important que la République ait cette intelligence de ne pas assigner les enfants à la religion de leurs parents, sans les brimer non plus. Et cet équilibre existe, ça suffit. Ça demande juste un peu d'intelligence.
Mais oui, mais non, il ne faut pas en faire toute une histoire. Je veux dire, dans les cantines, effectivement, je veux dire, pour ne pas, je veux dire qu'on offre une palette, enfin, je veux dire, qui est... C'était Nicolas Sarkozy qui a dit « ils auront double ration de frites ». Évidemment, c'était malvenu parce que les frites, d'abord, ça se digère très mal. Mais je veux dire, dans une cantine, quand on offre du poisson, des légumes et les enfants choisissent et qu'on n'en fasse pas d'histoire,
oui,
qu'on
les choisisse de même. Alors, vous voyez, oui, tous les trois, nous sommes de culture, de préférence politique fondamentale, enfin, pas fondamentale, ouais, justement, mais contingente, de... assez différents tous les trois, ouais, et on s'accorde très simplement sur un sujet comme ça. Ouais. Mais alors, si on s'accorde très simplement, comment est-ce qu'on explique, c'est ça que j'ai du mal à même à comprendre, que quelqu'un comme Xavier Bertrand, que j'ai cité tout à l'heure, considère que ça, c'est tout à fait inacceptable et contraire à la République. Comment on montre que c'est trop chevaux des grands principes?
C'est le travail des politiques de se saisir des angoisses de leurs compatriotes et évidemment d'essayer d'en faire un capital politique. Et aujourd'hui, l'angoisse est tellement forte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur le terrain d'essayer d'incarner cette peur, plus cette peur que des réponses pratiques. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a trouvé une réponse pratique, ça fait zéro voix.
Mais c'est très dangereux. Voilà,
c'est ça le problème. Oui, mais
on est dans ce cycle. Écoutez, franchement, on est dans des temps dans lesquels monte, je ne sais pas les mots employés, peu importe, montre la radicalisation islamiste. C'est indiscutable.
Oui, oui.
On est aussi dans des époques dans lesquelles montent les forces politiques populistes xénophobes. C'est indiscutable. Et moi, je dis que ce genre de surexcitation et d'envahissement de la sphère médiatico-politique, je ne sais pas, 280 débats sur le voile en 15 jours, etc., l'effet politique, c'est de renforcer la radicalisation islamiste et de renforcer les forces populistes.
Et je pense qu'à l'inverse, chaque fois qu'on ignore ces thématiques, effectivement, on a aussi un vide qui est rempli, on sait très bien par qui, par les plus extrémistes. Donc la juste mesure, c'est, je pense sincèrement qu'on devait avoir ces débats, même une centième fois, qu'ils auraient dû être plus courts, et qu'ils, surtout, ils doivent être menés par des gens qui ont une parole constructive, qui cherchent une issue, en fait, des gens qui veulent vraiment qu'on s'en sorte. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, il y a une surreprésentation médiatique de gens qui ne veulent pas qu'on s'en sorte, parce qu'ils sont déjà surreprésentés dans le monde politique. Donc si en plus on les surreprésente dans le monde des idées, on ne va pas s'en sortir. Mais il y avait autre chose que vous disiez, Olivier, sur la montée de l'autoritarisme, cette volonté de censurer et d'interdire à tout venant. Là, on est pris entre deux mouvements de fond qui sont très profonds. On a d'un côté une jeunesse qui est de plus en plus américaine, c'est-à-dire elle importe tous les tabous du débat public américain. Et c'est une jeunesse qui, malheureusement, rêve plus d'interdire et de censurer que de créer, que de repousser les barrières du progrès. Donc on a une génération qui se pense très progressiste, très à gauche, et qui est une extrême gauche en fait totalement régressive. Et de l'autre côté, on a une tentation d'une droite très autoritaire qui, elle, veut réaffirmer... au contraire, sa domination de plus en plus, culturelle, religieuse. Et on est entré même dans le cycle infernal qu'ont connu les pays arabes, qu'ont connu l'Algérie avant nous. C'est-à-dire que face à des totalitaires qui utilisent la démocratie pour mieux la tuer de l'intérieur, notre tentation de démocrate, c'est finalement de monter le ton. Elle est un peu humaine, hein, cette tentation. C'est de dire on ne va pas laisser faire les antidémocrates, sauf qu'on devient nous-mêmes antidémocrates.
Oui, et puis en ce moment, on voit bien aussi que la laïcité, réaffirmer les valeurs de la laïcité... et de la nécessité pour la République de se défendre face aux prétentions d'un islam politique, c'est au moins là des valeurs qui fait que la droite, toutes tendances confondues, se réunit, tous les leaders.
Alors oui, mais on est en train de changer le sens de la laïcité. La droite, quand on dit que la laïcité impose d'interdire totalement le foulard partout, y compris certains disent, y compris certains
dans
disent
la rue,
ce
oui.
de la liste, mais y compris dans l'espace privé, j'ai entendu.
Non, non, mais ça, là, on est en plein délire autoritaire.
Oui.
On est en plein délire autoritaire, mais justement, pourquoi on se bat depuis tant d'années pour que la gauche porte les valeurs de féminisme, d'universalisme et de laïcité pour être... Mais cette gauche n'existe plus, elle n'a plus de porte-parole politique, elle est en morceaux, elle était explosée. S'il y avait une gauche républicaine dans ce pays qui était capable de porter cette alternative, elle mettrait de la raison dans un débat public qui est pris entre les démissionnaires, ceux qui sont vraiment des partisans de l'aveuglement, du déni, de la démission culturelle qu'on a vue à la marche contre l'islamophobie, qui sont une honte, une trahison de Charlie Hebdo, une trahison de Charb, une trahison du progressisme en général, et qui sont les mêmes qui commencent à se laisser infiltrer par des candidats communautaristes intégristes, ce qui est beaucoup plus grave que simplement communautariste. Et de l'autre côté, on a une droite qui, je suis désolée, ne cherche pas à promouvoir le féminisme et la laïcité.
Alors comment est-ce que
la domination culturelle.
Non, mais on voit ce qui est intéressant, par exemple, que ce soit Bruno Retailleau qui défende la journaliste Zineb El Razoui, qui est condamnée à mort parce que Elle a osé critiquer l'islam, mais il est la seule.
Il n'est pas le seul, mais la droite a toujours eu plus de cran quand il s'agit de dire les choses qui fâchent. Ça, c'est culturel. Mais sa réponse est rarement progressiste.
Comment est-ce que vous expliquez le tournant à 180 degrés opéré sur ce point précis par Jean-Luc Mélenchon ? Je vous laisse aller 2 minutes pour réfléchir et vous nous répondez pendant la pause. Après la pause.
Comme chaque samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Et ce matin, vous recevez Caroline Fourest, auteure, réalisatrice et journaliste à Marianne.
Et vous savez, Justine, pourquoi j'adore Caroline Fourest ?
Non, mais dites-moi.
Parce que je trouve ça formidable, quelqu'un qu'on ne peut absolument pas soupçonner du début, du commencement d'une complaisance avec l'islamisme, qui reste si attaché à la préservation de la liberté et qui, à chaque fois, ne se laisse pas entraîner.
Oui, et qui dit des choses si fortes avec une voix si douce.
Oui.
C'est formidable.
Ah oui, mais c'est adorable. Ça, c'est la petite touche Catherine, en plus, c'est les choses si
c'est
fortes.
C'est adorable. Est-ce que je peux juste ajouter un commentaire à vos compliments ? Ce qui, moi, me stupéfie depuis quelques temps, c'est que même quand vous défendez des choses aussi précises avec, j'espère, le plus de calme possible, vous arrivez dans le débat à être traité d'hystérique, de fasciste, ce qui est quand même ce que je lis toute la journée de la part des professionnels de la désinformation et du procès d'intention. Et je crois que ça nous fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal.
Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Il y en a aussi parmi vos amis qui y vont un peu fort dans le vocabulaire qu'ils utilisent pour critiquer ceux qui ne sont pas comme eux. Par exemple, quand on utilise les expressions de collabos.
Mais je ne sais pas à qui vous faites référence, Olivier, parce que moi, j'ai un travail un peu seul et un peu... Je me sens pas lié ni par aucun ni groupe, ni mouvement, ni parti, donc je ne sais pas à qui vous faites référence. Sincèrement, quand des gens sont dans non seulement le déni du danger totalitaire, mais en plus vont faire la courte échelle à des entrepreneurs de haine et de totalitarisme, je veux la voir dans le contexte parce que sincèrement je pense que c'est un mot qui fait manier beaucoup beaucoup de précautions, mais c'est une forme de collaboration à la démission culturelle, ça c'est certain.
Oui d'accord, mais le mot collabo...
Oui mais on parle bien d'un danger totalitaire, attention Olivier, quand on est face à des entrepreneurs de totalitarisme et de haine, on est dans une comparaison qui n'est pas complètement absurde, même si, encore une fois, je souhaite toujours qu'on fasse le plus attention et qu'on soit le plus précautionneux possible dans l'usage du vocabulaire. Je pense que c'est vital dans notre époque d'avoir cette attention-là.
Et pendant ce temps-là, Erdogan exerce son chantage et met ses menaces en application. Et écoutez le commentaire, ma foi, qui n'est pas dénué de pertinence, de M. Gilbert Collard, pourtant eurodéputé Rassemblement National. Et j'assume le pourtant.
La Turquie est un État maître chanteur. Et maintenant, elle exerce ce chantage. Bon, mais ces réfugiés étaient-ils sous contrôle kurde ? Ce qui fait qu'on n'aurait pas, à ce moment-là, à les récupérer. Mais comme la Turquie nous fait un véritable chantage, elle nous envoie des bombes.
Donc c'était sur Europe 1 mardi, Catherine Ney.
Oui, mais les Turcs... Mais c'est vrai, aujourd'hui, les djihadistes... Je crois que la France, c'est combien il y en a ? Il y en a 150 qui étaient détenus par les Kurdes et 200 Français qui sont en errance et qui sont à la merci de la Turquie pour les renvoyer en France. Bon. Donc, en 2014, le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, avait signé un protocole avec la Turquie qui faisait que si la Turquie renvoyait des djihadistes en France, au moins les policiers français seraient prévenus et les policiers iraient les chercher en Turquie pour les ramener en France et les incarcérer.
Parce qu'elle les laissait déjà pas mal se balader. Oui.
Bon, qu'il y a, pour l'éviter
qu'est-ce
de se balader.
Qu'est-ce qu'il y a d'anormal, Caroline Fourest, est-ce qu'on aime ou pas Erdogan? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal quand il dit ce sont vos djihadistes, ce ne sont pas les miens, je vous les renvoie?
Olivier, pardon, dans cette histoire, tout est anormal. Oui. Tout est anormal. Et d'une gravité. Et pour le coup, je pense qu'on devrait y passer beaucoup plus d'heures dans nos médias pour parler de ce qui est en train de se passer au nord de la Syrie. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Sœurs d'armes, où il y avait annoncé dans le film, je reviens des États-Unis, où c'est ce qui a beaucoup surpris les médias américains. Ils m'ont tous dit, vous avez fait un film prophétique. L'abandon des Kurdes était déjà écrit dans mon scénario que j'ai écrit il y a plus de 3 ans. Et la fin d'Al-Baghdadi, par certains éléments aussi. Mais réellement, le fait d'avoir laissé les Turcs massacrer nos alliés dans le nord de la Syrie, avec une carte blanche pour ce massacre incroyable, dont M. Trump s'est quasiment vanté après l'élimination d'Al-Baghdadi. Il a quand même eu cette phrase hallucinante. Depuis que les Kurdes se font un peu... on connaît des jours de débat un peu intenses, ils sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus souples et ouverts à la négociation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une entente Erdogan-Trump pour massacrer nos alliés, qui étaient aussi ceux qui gardaient nos prisonniers. Donc, on a laissé prendre le risque de mettre dans la liberté des centaines de djihadistes dont on sait que ce sont tous potentiellement des bombes humaines. Évidemment que ça n'inquiète pas M. Erdogan. Ça fait des années qu'il joue double jeu sur cette question. Ça fait des années que les djihadistes de Daesh vont se soigner en Turquie et repassent la frontière pour mieux nous frapper. Et que quand il en relâche quelques-uns, parce qu'il est tenu par certains protocoles, il les laisse à l'aéroport sans prévenir les autorités françaises. Comme ça, on est encore plus sûr de les laisser passer. Donc aujourd'hui, concrètement, si demain il y a de nouveaux attentats qui sont commis grâce à des évadés, à des revenants, on en portera la responsabilité. On s'est nous-mêmes mis dans cette situation.
Mais c'est qui votre on? Parce que le gouvernement français n'avait pas les moyens et l'armée française de s'opposer toute seule l'agression turque.
Je suis d'accord que c'est bien le problème de ne pas avoir d'Europe militaire. C'est bien le problème de ne pas avoir d'armée européenne. Nous ne comptons plus dans le jeu des nations. Nous sommes face à notre impuissance. Est-ce que ça représente comme risque pour notre sécurité? Les nationalistes et les souverainistes qui, depuis des années, empêchent la création de cette armée commune sont devant leurs responsabilités aussi, parce que si l'Europe avait une armée aujourd'hui, ça me paraît difficile avec la sortie de l'Angleterre désormais, eh bien nous pourrions peser, nous pourrions assurer la sécurité de nos prisonniers djihadistes au nord de la Syrie. Or, nous ne comptons plus. Les seuls maîtres du jeu, c'est même plus l'Amérique, puisque Donald Trump a remis son titre de maître du monde entre les mains de M. Poutine. Le seul maître du jeu, c'est Vladimir Poutine, qui, contrairement à ce que croit l'extrême droite, se fiche éperdument de notre sécurité. Au contraire, plus il y a de chaos en Europe, plus il prospère, plus les extrêmes droites qu'il soutient prospèrent aussi. Et du coup, nous allons continuer à être frappés.
Eh bien, étendez la... soufflent les vents électoraux, c'est pas prêt de s'arranger. On y revient dans quelques minutes.
Oui, mais enfin, on était très contents.
Catherine, on y revient dans quelques minutes. Vous savez, nous sommes dans une maison qui a besoin de ressources pour recouvrir ses dépenses.
Oui, absolument.
Médiapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également votre invitée du jour, Caroline Fourest, journaliste à Marianne, auteure et réalisatrice de Sœurs d'armes, sortie le 9 octobre dernier.
Et je disais que les vents ne soufflaient pas dans un sens favorable au renforcement de l'Europe, à la construction d'une Europe politique puissante, y compris militairement, dont Caroline Fourest regrettait l'inexistence. Il y a eu des élections dimanche dernier en Espagne. Le mouvement Vox, qui est un mouvement politique qui n'existait pas il y a 5 ans, qui n'existait pas, est devenu la troisième force politique du pays avec 15% des suffrages. Or, c'est un mouvement politique anti-européen, anti-immigré, anti-catalan, anti-animaliste, anti-féministe. Il traite les féministes de féminazis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de féminazis. Et toutes ces outrances font son succès. Caroline Fourest, ça doit vous faire froid dans le dos quand même.
D'une façon générale, je pense que le retour de bâton autoritaire et xénophobe est clairement la menace des années à venir en Europe. Je pense que dans le contexte espagnol, il y a quand même une donnée qui a joué pour le succès de Vox, qui est vraiment le séparatisme catalan, et que ça a été quand même une rampe de lancement qui a permis ce bond. Parce que l'Espagne a une tradition quand même de vigilance vis-à-vis du fascisme qui n'est pas morte et qui est quand même assez vivace. Mais là, réellement, vous savez, on est dans un monde où les gens ont peur de voir leurs unités nationales se disloquer. Parce que de fait, les États-nations subissent la pression à la fois de la globalisation et en réaction de la régionalisation. Et du coup, le séparatisme catalan va forcément créer une espèce de réaction nationaliste.
Ça, c'est une des grandes différences, d'ailleurs, avec notre extrême droite. Est-ce qu'il y a aussi une différence sur le rapport au féminisme ou à la question dite animale, par exemple? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a un... Est-ce que l'extrême droite française ou l'ultra-droite française, enfin le Rassemblement national pour parler clair, est en train de dépasser les pulsions machistes qui étaient très fortes au Front National ou pas? Parce que vous savez, on a beaucoup parlé de la dédiabolisation.
Oui.
La dédiabolisation, elle a été réelle sur la question de l'antisémitisme.
Quand j'ai publié mon livre sur Marine Le Pen, je lisais un nombre incroyable d'articles de confrères et de consoeurs qui avaient absolument... avaler l'idée que simplement parce que le Front National changeait de tête et passait d'un homme à une femme, c'était formidable, on était devant un parti limite féministe. Et évidemment, il n'était quand même pas dur de retrouver que les discours portés, y compris par Marine Le Pen, qui sont tout sauf des discours féministes, même si elle-même, par sa liberté de vie et par son indépendance de caractère, fait qu'elle peut donner le sentiment parfois d'être évidemment beaucoup moins antiféministe que son père. Il faut dire que la barre était très haute.
Mais elle a peu de femmes autour d'elle dans son état-major.
Oui, et puis... Alors honnêtement, elle a compris une chose, parce que le Front National est un parti opportuniste, et donc ils savent bien que quand quelque chose est populaire, ils ne vont pas aller contre, ils cherchent avant tout à vivre de leur petite boutique politique. Et du coup, on est quand même un pays qui reste assez macho, mais néanmoins, le féminisme, notamment parce que c'est devenu une des possibilités de se défendre aussi face à l'intégrisme, est quand même suffisamment aujourd'hui reconnu et consensuel pour que même... un Front National qui cherche à gagner des voix fasse attention à cette thématique, plus qu'en Espagne, visiblement, où là, et sur la cause animale, le partenariat avec Brigitte Bardot, malheureusement, va beaucoup compter au Front National, ou heureusement, du coup, peut-être que ça les prive au moins de ce
Et corps. Sur le féminisme ou les féminismes, est-ce que la radicalisation d'une partie du féminisme ne risque pas de réveiller et de reproduire du machisme?
Le féminisme n'est pas en train de se radicaliser, le féminisme... Certains groupes féministes sont en train de s'égarer totalement. Je veux dire, c'est effondrant de voir ce qu'on dit aujourd'hui au nom du féminisme et ce qu'on en fait. Et notamment chez la jeune génération qui se revendique de l'intersectionnalité et qui est en train de tout mélanger, de tout confondre. Écoutez, quand il m'arrive d'avoir des étudiants à Sciences Po et je vois bien au nom de quelle bonne volonté, peur de penser aussi parfois... se génèrent des comportements qui sont des comportements de censure, qui sont des comportements liberticides, qui sont des comportements de vraie confusion. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, en fait, n'est plus féministe. Elle est d'abord antiraciste, ce qui est très bien. Mais au nom de l'antiracisme, elle décide que le féminisme est à géométrie variable. Qu'on peut être féministe pour les Blancs, par exemple, mais qu'il ne faut pas trop l'être quand il s'agit d'être de culture musulmane ou d'être en situation de minorité. Là, elles abandonnent leur féminisme au nom de la cause prioritaire antiraciste. Et ça, c'est quand même l'inverse d'une vision universaliste du féminisme.
Et pendant ce temps-là, Boris Johnson parle de masturbation. Dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, qui sont accompagnées ce matin par Caroline Forest, auteure, réalisatrice et journaliste à Marianne.
Et nous disions il y a quelques minutes que pendant ce temps-là, Boris Johnson parlait de masturbation. En fait, c'est pas vrai.
C'était un lancement accrocheur.
Pardon ?
C'était un lancement accrocheur.
Ah, vous êtes déjà au courant?
Oui.
Parce que c'est Alice Baudry qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne et surveille les médias internationaux pour nous, qui l'a repéré. C'est un article donc de The Independent, le grand quotidien britannique, et qui nous dit ceci. Onanisme ou masturbation. Selon The Independent, il s'agit du seul terme nouveau que le Premier ministre Boris Johnson est employé au cours de sa campagne électorale. Onanisme.
Mais
le plus curieux, c'est qu'il ne l'a pas dit. Et pourtant, il y a une énorme polémique là-dessus. Alors, les partis savent, je continue à citer l'article, que les médias se lassent facilement des discours des politiques en pleine campagne électorale, car ils se répètent, ils sont ennuyeux, ils sont sérieux. Pourquoi ils s'amusent de temps en temps à fuiter les discours avant qu'ils ne soient prononcés pour susciter l'intérêt du public? Et c'est ce qui s'est passé lorsque les journalistes se sont saisis du discours prévu par Boris Johnson dans la ville de Rugby, près de Birmingham, cette semaine. Y figuraient les termes peu communs en politique de marmotte et masturbation. Et c'est surtout le second qui a fait l'objet d'une médiatisation considérable, comme on s'en doute. Mais le Premier ministre Boris Johnson n'a finalement pas employé le terme dans son discours. Alors, Diane Dépanot nous invite à nous interroger. Est-ce finalement une bonne chose de partager les discours avant qu'ils ne soient prononcés? C'est quand même, on a atteint le point extrême de la média politique dans laquelle, pour faire du buzz, on met un truc qu'après ne sera pas dans le discours, mais c'est quand même la seule chose qui restera, ce que vous n'avez pas dit.
Oui, mais enfin, tous les journalistes le savent, quand on vous donne un discours d'homme politique, on vous prévient que seul le prononcé doit faire foi. Et tant que le discours n'a pas été prononcé, le discours, je ne dis pas qu'il ne vaut rien, mais il faut se méfier des termes. Et souvent, entre le discours qu'on donne et qui a été écrit n'est pas celui qu'un homme politique prononce.
Oui, mais si vous bouclez votre journal avant qu'il soit prononcé et que vous voulez faire allusion au discours, faites bien allusion au discours qu'on vous a passé.
Alors vous entendez que Boris Johnson voulait faire sortir ce faux buzz, cette polémique pour amuser la galerie comme il le fait souvent avec d'autres...
Très très longtemps que j'ai cessé de sonder les intentions profondes de Boris Johnson.
Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est ce qu'il voulait dire exactement, et surtout si le mot marmotte et masturbation étaient dans la même phrase. C'est quand même ça qui nous intéresse. Et plus sérieusement, si c'est la polémique, c'est quoi? Qu'il ait enfin utilisé un mot de vocabulaire nouveau, parce que son vocabulaire est plutôt habituellement trivial, mais pas très renouvelé. C'est... Boris Johnson, c'est en soi le vrai problème, c'est la masturbation politique en général. C'est des hommes politiques qui vont faire un show, pour qui vont exister parce qu'ils ont envie d'exister et qu'ils ont absolument rien à proposer, sauf accompagner le destin tragique d'une nation parce que ça leur permet d'exister. C'est quand même ça qui est dramatique avec Boris Johnson, pas qu'il ait prononcé le mot ou pas masturbation.
Est-ce qu'un désavantage, s'il y en a, du Brexit, n'est pas que du coup, il n'y a plus de place pour l'extrême droite?
Un des avantages du Brexit, c'est que sincèrement, les Anglais pourrissent l'Union européenne depuis qu'ils y sont. Donc sincèrement, au bout d'un moment, s'ils veulent partir, qu'ils partent.
Mais alors, ligne, Michel Rocard.
Non, mais au moins qu'ils partent. Non, la seule chose qui me les fait regretter, très sérieusement, c'est que c'est malheureusement avec eux seulement qu'on aurait pu faire une armée européenne. Parce que les Allemands ne l'ont pas encore, donc il faut qu'ils la reconstituent. Ils ont par exemple, dans la guerre contre Daesh, beaucoup soutenu l'effort militaire en matériel, mais ils n'ont pas les hommes qu'ont les Anglais.
Et pourquoi est-ce que nous aurions l'obsession de la coïncidence stricte entre les politiques qu'on mène et les institutions qui les portent? On pourrait faire une armée européenne avec ceux qui y sont prêts, donc le Royaume-Uni, l'Espagne, j'imagine peut-être l'Italie, j'espère l'Allemagne, point barre. C'est pas obligé de correspondre à l'Union européenne.
Mais dans le fond, même Brexit ou pas, il va y avoir de nouvelles négociations pour savoir... Même si les Anglais quittent l'Europe, on va renégocier des accords avec eux. Oui. Et peut-être que les accords qui ont été signés sur l'armée, peut-être ne seront pas caduques. C'est possible aussi, on ne sait pas.
De toute façon, on va vers une Europe, et ça fait longtemps, une Europe à la carte. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il faut la présenter comme ça. Ne participe aux ateliers, on va dire comme ça, c'est le Club Med, l'Europe. Ne participe aux ateliers que ceux qui veulent.
Mais oui,
on n'oblige personne.
Allez, que ceux qui veulent, on termine là-dessus. Et puis non, on va terminer avec une note un peu plus joyeuse, un peu plus nostalgique, un peu plus Poulidor. Alors, pour Poulidor, Jean-Luc Arblat, qui est un grand spécialiste et des chansons et de Poulidor, nous a trouvé je ne sais pas combien de chansons de Poulidor sur Poulidor. Alors, je vous mets un tout petit bout de la plus connue, Verschoen.
Vas-y, Poupou, vive Poulidor.
Jean-Luc Arblat voudrait qu'on vous mette Vas-y Poupou pendant 2 heures. Moi, je voudrais que vous puissiez entendre aussi l'autre chanson sortie en 1996 sur l'album Nouba, et qui permet, c'est une chanson de quête qui permet de parler de Poulidor autrement. 60 millions de Poulidor, la passion, le cœur en or, mais il roule derrière, souvent derrière, écoutez.
Soixante millions de poulies d'or, la passion, le cœur en or, mais ils roulent derrière, souvent derrière. 60 millions de poulies d'or, qui se reconnaît dans leur sort. Tendresse et tendresse, réconfort, du baume au cœur pour 60 millions de poulies d'or. Partisans du bel effort, des champions, pas des matamores, mais ils roulent derrière, souvent derrière, toujours partant, donne le meilleur, toujours content, toujours d'accord, même s'ils roulent derrière, souvent derrière. La vie est sévère pour les moins forts, mais elle les console franco de port, en montrant les lanternes rouges qui rament à mort, accaparé par.
La vie est sévère pour les moins forts, mais elle les console franco de port. On pourrait appeler ça, appliquer ça au mouvement des Gilets jaunes. Non, non, je m'égare. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur europe1.fr. Merci à Caroline Fourest, notre formidable invitée. Merci à Jean-Luc Arblad, passionné de toutes les chansons et excellent réalisateur. Merci à Capucine Patouillet pour sa préparation, à Justine pour son animation, à Catherine pour tout. Nous, on se retrouve et en attendant, c'est l'ami Mariotte.
Oui, qui a déjà mis la table avec son équipe de bons vivants. Bonjour Laurent.
Bonjour et merci Catherine et Olivier. Alors ce samedi, on s'attaque au grand classique qui réchauffe. Pot-au-feu, blanquette, aioli. Nous irons aussi récolter les olives dans le sud pour faire de l'huile. Et puis Laurent Baffy viendra partager avec nous un plat canaille, comme lui. Allez, à tout de suite Justine.
À tout de suite Laurent.